Schaffhouse 36 points et Baden referme la marche avec 24 points. Voilà un petit peu ce que l'on pouvait dire sur cette 32e journée de Challenge League. Et donc, cette semaine, le FC Sion disputait deux matchs. Et pourquoi c'était intéressant de parler de cette 32e journée? C'est parce que ça nous donne une petite idée du classement et de ce qui va attendre les deux équipes, puisque voilà, toutes les équipes ont le même nombre de points. Alors, si on revient déjà peut-être brièvement sur ce qui s'est déroulé cette semaine, il y a eu ce match de coupe, mais lundi, il y avait un autre match important. C'était un duel entre Sion et Thun, deuxième. Malheureusement, le FC Sion s'est incliné 1-0. Et heureusement, on peut dire la bonne nouvelle, c'est que dans la foulée, Thun n'a pas confirmé hier contre Nyon en faisant match nul. Donc, conséquence, il y a ces trois points d'écart. Peut-être pour commencer, Yves Bourdin, les Valaisans ont perdu leur troisième et quatrième match de la saison cette semaine. C'est la première fois qu'ils perdent deux fois de suite. Est-ce que on parle de semaine noire? Est-ce qu'il faut un petit peu s'inquiéter ou pas du tout, selon toi?
Bon, perdre contre Lugano, on pouvait, je vais pas dire qu'on pouvait s'y attendre, mais c'était vraiment un défi. Par contre, la défaite à Thun lundi aurait pu faire mal dans les têtes valaisannes, peut-être fait mal dans les têtes valaisannes d'ailleurs. L'Obsession n'a pas pu développer son jeu. Thun a vraiment très bien joué tactiquement, a bien contré les Valaisans. Et voilà, sur quatre confrontations, il y a un nul et trois victoires contre Sion. Lustrinelli arrive à transcender ses troupes, à vraiment bien contrer le jeu des Valaisans, c'est clair et net. Et puis voilà, on avait la possibilité côté Sédunois de plier l'affaire lundi. Ça s'est fini par un petit 1-0, mais sans que on se crée autant d'occasions qu'on aurait pu se créer contre Lugano hier. Voilà, en début de match, il y a Zorgic qui a un contre un contre le gardien de Thun, qui fait un arrêt incroyable, et dans la foulée, c'est Thun qui marque un super but aussi. Puis derrière, on sent pas les Valaisans capables d'emballer le match, d'enflammer. Et Thun, voilà, qui casse le jeu, qui casse le rythme, etc. etc. Les minutes s'égrènent. Et puis, c'est trois points qui s'en vont. Et puis, heureusement, tu l'as évoqué, que Thun ne va pas chercher les trois points à Nyon hier. On aurait un classement avec un petit point d'avance de Sion sur Thun. Là, voilà, il y a trois points. On l'a pas dit, mais il y a un goal average positif de plus 17 de Sion face à Thun. Ça veut dire qu'il reste 12 points en jeu pour les deux équipes, donc 4 matchs. Il suffit à Sion d'en gagner 3 sur les 4, à condition que Thun gagne tous ses matchs et Sion est promu. Donc le positif est côté Valaisan. On a ce petit match-là entre les deux équipes. Il faudrait être concentré, donner à chaque fois le 120%, ça sera 4 finales, c'est sûr, et pas se dire on a 3 points plus le goal average qui va dans notre sens, on peut avoir un joker. Non, il faudra commencer déjà par Ville vendredi, prendre match après match. Thun, on va l'évoquer après dans la série de matchs qu'il aura à jouer, va jouer notamment Baden est déjà relégué, donc on peut penser que c'est déjà 3 points pris pour Thun, encore que les matchs il faut les jouer. Donc ça sera voilà, c'est un nouveau petit championnat qui commence entre les deux équipes et faudra pas louper les points.
Alors Yohann Lonfa, question, il a allé plus vite que moi.
Il a tout dit.
Voilà, il reste 4 matchs, il l'a très bien dit. Sion peut se permettre le luxe de perdre une partie et de rester leader. Est-ce que partant de ça, est-ce qu'on peut se dire tous les feux sont au vert pour le FC Sion, ou alors attention, danger à pas avoir dans le coin de la tête, on a un petit coussin de sécurité?
Non, je pense pas qu'on puisse dire que tous les feux sont au vert. On reste quand même avec une défaite sur Thun. C'est vrai, sur les 4 rencontres face à Thun, il y a qu'un point qui est pris par les Valaisans. Ce match de lundi, oui, il était un petit peu difficile. J'ai pas trouvé justement l'impact physique que les Sédois ont mis hier soir contre Lugano. Pas de surprise, pas de rapidité dans les transmissions. Ils se sont laissés un petit peu endormir par le jeu bernois. Donc voilà, il faudra quand même en tirer les enseignements et pas juste se réjouir de faux pas de Thun. Alors c'est très bien que Thun n'ait pas remporté l'enjeu hier. C'est aussi la bonne nouvelle de la journée de hier. L'autre bonne nouvelle, c'est quand même, on a vu justement que les Sédunois, même qu'on disait quand même un petit peu à bout de souffle, on a vu quand même que face à cette équipe de Lugano, d'un calibre quand même supérieur que les quatre équipes qu'ils auront à rencontrer en championnat, et les Sédunois peuvent se mettre à la hauteur, ont même toutes les armes pour passer. Et donc ces éléments-là et ces ingrédients-là, il faudra à tout prix les remettre sur le terrain dans les quatre derniers matchs, et pas juste dire, bah tiens, on a encore une marge, on peut jouer là-dessus. Ce serait vraiment la pire des erreurs.
Alors, avec votre expérience de joueur, j'aimerais vous poser aussi une autre question. Sion qui s'est fait éliminer hier de la Coupe, on sait, la Coupe en Valais, c'est quelque chose d'important. Il y a eu beaucoup d'engagement émotionnellement, physiquement, mentalement. Est-ce qu'une défaite comme ça, on peut craindre peut-être un contre-coup justement sur la partie ou les parties qui suivent?
Je pense pas, justement, dans le sens où le FC Sion a fait un parcours remarquable en Coupe. On ne faut pas oublier qu'on est une équipe de Challenge League. On l'a dit, on l'a sorti grâce au père, on a sorti Young Boys, on a regardé les yeux dans les yeux une des équipes qui marche sur le championnat actuellement, qui est le FC Lugano. Donc non, ça doit plutôt donner des certitudes, donner confiance. Moi, par exemple, j'ai vu un gars comme Chouaref, que j'avais vu très timoré lundi à Thun, transcender hier. Donc c'est là qu'on voit que beaucoup de choses passent par la tête, passent par la mise en confiance des éléments qui composent l'équipe. Et ça, on peut compter aussi sur Didier Tolo pour montrer l'importance de ces quatre derniers matchs, parce qu'il ne suffira pas de dire bon, aujourd'hui on a Ville en face, on devrait gagner. Non, il faudra à tout prix rentrer dans les mêmes attentions que contre Lugano dans les quatre derniers matchs pour faire cette promotion qu'on attend tous.
Alors le 20 mai prochain, on saura qui de Sion ou de Thun sera directement promu en Super League et qui devra passer par les barrages. À moins d'un mois de la fin du championnat, il reste 4 parties à jouer de part et d'autre. Si on compare un tout petit peu les calendriers, Yves Bourdin, c'est plutôt similaire. Les deux équipes jouent deux fois chez elles, deux fois à l'extérieur. Les deux équipes jouent Ville 7e et Chafouz 9e. Et donc dans ce qui change, le FC Sion affrontera Bellinzone 8e et Haro 4e. Côté Thun, c'est Baden dernier et Vaduz 3e. Donc on a quand même deux calendriers qui se ressemblent, donc finalement balle au centre.
Oui, balle au centre, d'autant plus que toutes ces équipes n'ont plus rien à jouer. Il y a 12 points d'écart entre le dernier et l'avant-dernier, donc autant dire que Baden, qui a une défaveur assez grande au goal average, est relégué. Donc ces équipes vont se présenter face à Thun et face à Sion en ayant la motivation de l'honneur pour le match, j'ai envie de dire, de gagner. Il y aura peut-être une motivation supplémentaire de jouer contre le FC Sion, notamment à Tourbillon. On sait que quand tu es un joueur peut-être de Chafouz ou Ville, tu vas pas avoir tous les week-ends des matchs comme ça, notamment à Tourbillon. Donc il faudra s'attendre, comme le dit Johan, à devoir vraiment tout donner, parce qu'en face on aura des joueurs surmotivés, ça c'est sûr. Est-ce que tout le monde jouera le coup à fond? J'ose imaginer que oui, mais on ne peut pas faire de calcul en disant le calendrier est plutôt favorable ou défavorable à l'une ou l'autre des équipes. Il faut, côté FC Sion, se dire qu'en face on aura des joueurs qui seront remontés comme des petits coucous et qui voudront absolument battre ce FC Sion là et puis partir du principe que Thun devra jouer lui aussi des finales pendant ces quatre matchs pour espérer un faux pas du FC Sion pour être promu directement. Parce que si on a passé tout le championnat en tête en ayant cette belle épopée en Coupe de Suisse, puis qu'on crève au poteau comme on le dit, puis qu'on doit jouer des barrages derrière, dans les têtes ça pourrait être vraiment compliqué. Donc autant se mettre à l'abri le plus rapidement possible et laisser cette place au FC Thun.
Alors Johan Lonfa, quand on est si proche de remporter le titre, de refaire la promotion en Super League, comment on gère un petit peu la pression qui, j'imagine, doit être grande au fur et à mesure?
Par le travail au quotidien, par le, là aussi le rôle peut-être des anciens, des joueurs plus expérimentés, on en a dans cette équipe, devront montrer la voie pour éviter tout relâchement ou des choses comme ça, parce qu'on est près du but, c'est vrai. On a quand même dit toujours, même avec cette épopée en coupe, que la priorité reste le championnat, et c'est pour le club et pour les joueurs aussi de fêter une promotion puis de jouer dans la première division du championnat. C'est quelque chose de très très important à titre personnel aussi. Donc ils auront vraiment j'espère, ils mesureront l'importance, et j'en suis sûr, de ces enjeux, des matchs qu'il faudra vraiment prendre à bras-le-corps, pas se créer une pression supplémentaire, mais la pression fait partie un petit peu du métier de footballeur professionnel. Donc ils doivent apprendre à gérer ça et jouer le rôle de favori de la meilleure manière en attaquant bien les matchs.
Le temps file. Merci Bourdin, Johan Lonfin, d'avoir été en notre compagnie ce dimanche soir. Bonne fin de soirée à vous.
Bonne soirée, merci.
Bonne soirée.
Et on se retrouve dans quelques instants pour parler de cyclisme et du Tour de Romandie en compagnie d'Alain Glacé. Mais juste avant, on passe par la case musique sur ONFM. Summer sky and rest on the breeze. The same wind will
FM vous accompagne toute la nuit
avec ses meilleurs moments.
Ron FM, Zone Mix avec Yoann Roduit.
Et pour terminer cette émission, on va parler de cyclisme et plus précisément de la 77e édition du Tour de Romandie. Et pour revenir sur toute la semaine écoulée, Alain Glacé, régulateur du tour, est avec nous par téléphone. Alain, bonsoir.
Oui, bonsoir.
Alors le Tour de Romandie 2024 s'est terminé il y a quelques heures seulement après avoir débuté ce mardi. Si le Français Dorian Godon a remporté la dernière étape, c'est l'Espagnol de 23 ans Carlos Rodriguez qui a remporté cette édition 2024. Alain Glacé, on va peut-être commencer par vous poser une question tout simple. Vous étiez régulateur sur ce Tour de Romandie 2024. Concrètement, Qu'est-ce que ça veut dire et quel est votre rôle ?
Alors, on est deux régulateurs sur le Tour de Romandie. Il y en a un qui part devant le peloton et un derrière le peloton. Et après, quand il y a une échappée, celui qui est devant se met derrière l'échappée et l'autre se met derrière le peloton et on régule la circulation. Quand on est derrière l'échappée, des motos de l'escorte, des motos ficelles d'escorte, on fait passer l'échappée. On fait aussi passer les voitures VIP. Ça, c'est une autre tasse de thé. Et puis on donne des coups de main sur ordre de Richard Chassot sur quelque chose en course. Et puis derrière le peloton, on régule surtout les motos escortes pour doubler le peloton et les voitures VIP, interdiction de doubler.
Alors vous évoquez ces véhicules, voitures, motos dont vous devez gérer. Ça représente un nombre de combien sur un tour comme celui-ci ?
Ça dépend. Des voitures VIP, il y en a une quinzaine. Des motos de l'escorte, il y en a 30. Donc voilà, en plus, il y a les motos de la Fédération Malaisanne, mais on a 150 et eux font du point to point. Et puis, tandis que les moteurs d'escorte, on les fait doubler soit le peloton, soit les échappés pour la sécurité des coureurs.
Et puis, sur ce Tour de Romandie, il y avait deux chronos, deux arrivées en station, deux étapes pour les punchers ou les sprinters. Pour vous, concrètement, dans ce rôle, est-ce qu'il y a des formats qui sont plus difficiles à gérer ? Est-ce que votre rôle est différent en fonction de la physionomie de la course ?
Alors, par exemple, aujourd'hui, il y a eu un peu plus d'une course qui a duré plus de 4 heures sous la pluie. C'était, on n'avait pas trop de travail puisqu'il y avait très peu de motos à faire doubler. Mais c'était surtout les coureurs qui, 4 heures sous la pluie, les Valaisans ont connu des fortunes diverses. Donc voilà, sinon des jours d'une étape comme Châteaudet, on arrivait à faire facilement passer les véhicules parce que les routes sont belles ou autres, ou départ de Saillon aussi, en début de course on a pu faire passer quelques motos et autres, et puis sur les grandes routes quoi. Donc il faut aussi connaître un peu le parcours pour dire là on ne va pas faire doubler parce que dans 500 mètres il y a un village et on n'a pas le droit de doubler dans les villages.
Et si on revient sur ce Tour de Romandie, pour vous, là, à chaud, est-ce qu'il s'est plutôt bien déroulé maintenant avec quelques heures de recul ?
Oui, il y a eu très peu de chutes. Il y en a eu une le premier jour. Ensuite, il y en a eu trois chutes. Une aujourd'hui dans une descente de coureurs sous la pluie. Il y a eu juste deux coureurs qui ont abandonné suite à des chutes. Non, c'était une très très belle étape. Et puis l'étape qui a fini à Salban aussi, c'était joli. C'était beau en plus, quoi. Donc que demande le peuple ?
Et quel défi peut-être le plus difficile il a fallu relever sur ces 5 jours de course ?
C'est aujourd'hui le mauvais temps, quoi.
Et puis
sur les motos, oui.
Non, allez-y.
Pas sur les motos, on n'est pas à l'abri de la pluie, hein. Voilà, ouais.
Et puis sur ce Tour de Romandie 2024, il y avait plusieurs Valaisans engagés, ouais. Valentin Darbelay, Antoine Debon de la team Coratec, aussi Sébastien Reichenbach de l'équipe Tudor. Pour Valentin Darbelay, qui vivait sa première course par étape sur le World Tour, sa première participation au Tour de Romandie, vous en tant qu'ancien coureur, qu'est-ce que ça fait quand on participe comme ça à un événement chez soi et quand même de la trempe du Tour de Romandie 2024 ?
J'ai jamais participé à un niveau du Tour de Romandie, mais en tout cas pour Valentin, je peux lui donner une mention bien. Aujourd'hui, sous la pluie, il finit dans le deuxième peloton avec Sébastien Reichenbach à 1:21 de la tête. Antoine Debon, après 80 km, je pense qu'il y a eu un petit problème mécanique ou autre. Il était un peu dans les voitures, et puis dès qu'on est dans les voitures, si on n'est pas super super pour rentrer, on arrête, quoi. Et il a malheureusement dû abandonner.
Ouais, Valentin qui vivait son tout premier, ce qu'il a réussi à réaliser est quand même assez impressionnant.
Ouais, c'est impressionnant, surtout que ça fait 3 ans qu'il fait du vélo de compète. Donc, arriver à ce niveau, c'était bien. La montée sur Salvin, il a limité. Mais aujourd'hui, j'étais derrière le peloton, tout derrière. Et puis, je voyais les coureurs lâcher. Je disais, Valentin est toujours devant. Et puis après, je suis arrivé derrière son groupe à 1:21. Donc, chapeau, quoi, avec des conditions dantesques aujourd'hui. Ouais.
Et puis voilà, avec un tour comme ça, plusieurs étapes, différents formats, vous l'avez évoqué, des conditions difficiles. Comment on gère son énergie finalement ?
Bon, on essaye de s'abriter maximum dans les roues, mais quand ça embraye, comme on dit, c'est difficile de s'économiser. Donc aujourd'hui, en tout cas, Valentin, bon, Sébastien, il a l'habitude, ça fait plus de 10 ans qu'il est pro. Mais Valentin, en tout cas, ce qu'il a démontré tous les jours et aujourd'hui en plus, dans des conditions difficiles, finir assez dans le deuxième groupe, chapeau. En tout cas, je lui souhaite de progresser comme ça et puis dans une année ou deux, il sera encore plus dedans.
Alors le classement final des Valaisans engagés sur ce Tour de Romandie, on a eu Sébastien Reichenbach 57e, Valentin Derbelay qui termine à la 68e place et le meilleur Suisse en la personne du Jurassien Yanis Voisard qui a pris le 21e rang final. Alain Glacé, on profite aussi de votre présence pour évoquer votre autre casquette. Aujourd'hui, vous êtes aussi le manager et directeur sportif de la team VTT Papival Scott, une équipe qui fait maintenant partie des meilleures équipes de VTT de Suisse, qui est connue à l'international. Même question un peu qu'avant, mais dans ce rôle-là, voilà, qu'est-ce que vous devez faire très concrètement ?
Oula, je suis là, j'ai plein de casquettes. Je récolte des sponsors financiers en matériel, par exemple la maison Papival, les vélos Scott. Donc ça, c'est un côté du travail. Après, il y a le choix des coureurs. J'ai pas mal de demandes, donc il faut choisir et puis pas blesser ceux qu'on choisit pas. Donc voilà, après, je vais sur les courses, surtout sur les marathons, accompagné l'année passée, j'accompagnais Martin Fanger. J'accompagne Martin Fanger qui est encore là dans l'équipe. Il y avait David Gisling là qui fait deuxième du Grand Raid qui a mis un terme à sa carrière donc je l'accompagnais aussi et puis Estelle Morel qui a fait vice-championne d'Europe donc là j'ai engagé une seule nouvelle Mélanie Grette de Neuchâtel qui vient de se qualifier pour les championnats d'Europe en équipe nationale donc voilà donc tout va bien et puis Martin Fanger aujourd'hui il a fait sa rentrée à Oufali sur le Roc des Ardennes 108 km il finit 20e c'est pas mal c'est un bon début de saison.
Alors vous avez dit avant, un de vos rôles c'est sélectionner les coureurs, voilà, par quoi ça passe, sur quoi on s'appuie pour sélectionner les coureurs ?
Les résultats, deux, le feeling, et puis en trois, le nez. En regardant les courses, en regardant les coureurs, on essaie de trouver les meilleurs possibles. Quoi. Bon, je suis une équipe valaisanne, je prends surtout des valaisans, avec des jeunes, avec essayer de motiver les jeunes, donc... Voilà aussi, il y a Thibaut Contes là de Chouet qui marche bien, qui a gagné sa première course sur route il y a 2 semaines, donc il faut aussi un peu de route pour se préparer et puis voilà, focus sur Valais 2025 en tout cas pour Thibaut, Noémie et puis Martin.
Ouais, c'était une de mes questions. 2025, championnat du monde mountain bike USI. Ça a marqué l'histoire du VTT puisque sur les 2 semaines de compétition entre le 30 août et le 14 septembre, il y aura pour la première fois les 7 disciplines du mountain bike qui seront réunies dans une seule région haute. Voilà. Quelles sont un petit peu vos attentes pour cet événement là-dessus? Voilà.
Alors, en cross-country, les places seront chères parce que c'est en équipe nationale. Donc, Thibaut Contes et Noémie Grette, je pense qu'ils ont une chance d'être qualifiés. Après, sur le marathon, c'est entre guillemets un peu plus facile. Il suffit de terminer une fois 20e dans une Coupe du Monde du CI ou être 80e mondial en marathon. Et puis, Swiss Cycling ouvre aussi des places à des coureurs qui sont moins bien classés.
Et puis avoir un tel événement comme ça en Valais, j'imagine que c'est quelque chose qu'on attend avec impatience et qui est assez incroyable.
Oui, écoutez, il faudra profiter. On espère qu'il fera beau les 2 semaines. Et puis paradoxal, cette année, les championnats du monde marathon sont à Snowshoe aux États-Unis. Donc en 2025, on sera plus proche du Grand Raid BCVS, quoi.
C'est sur ces mots que vont s'achever cette émission. Merci beaucoup Alain Glacé d'avoir répondu à notre invitation ce dimanche soir. Bonne soirée.
Et pareillement. Et puis, vous aussi, merci.
Merci à Malena qui s'occupe de la technique, du bon déroulement. Et puis évidemment, merci à vous de nous écouter en ce dimanche soir sur Run FM. Bonne fin de week-end et à très vite. Ciao, ciao.
18h15, 19h, le dimanche, l'essentiel du sport. C'est Zone Mixte sur ON FM.
Back to the wanna spend forever with you.
I know this sounds cliche, but I was in love with you from the first sight, like a moth drawn to a flame.
Take me back to the summer breeze, sleeping out by the willow trees. It was the first time you laid your head on my chest.
It was a night I'll never forget. That's when I told you on a Friday night.
Séance de rattrapage. Rhône FM, feu vert, feu rouge.
La chimie du quotidien avec le professeur Xavier Fernandez. Bonjour Xavier.
Bonjour.
Vous êtes professeur à l'Institut de chimie de Nice, Université Côte d'Azur. Aujourd'hui, on va se pencher sur une observation assez étonnante en matière de goût. Les bébés n'aiment pas le café. Or, quand on devient adulte, on peut carrément devenir addict. Alors, comment est-ce qu'on explique cela, à commencer par l'aversion des bébés pour le café?
Eh oui. C'est vrai qu'on se rend compte quand même qu'on est exposé à des phénomènes quotidiens qu'on a observés et on ne se pose pas forcément la question, on n'a pas forcément l'explication. Et si on creuse un petit peu, on a des fois des explications qui sont assez fascinantes et on voit la complexité de l'être humain qui est toujours, pour le scientifique, une source de fascination. Cette question, elle est simple et pourtant, on va voir que la réponse, elle est fascinante et étonnante.
Et c'est pour qui les cafés ?
Putain, on est en train d'enregistrer là.
Ah oh là, je suis pas ta bonne. Hein.
Il y a de très nombreuses études qui ont été menées sur l'appétence qu'ont les nourrissons et les jeunes enfants, pour voir un petit peu par quoi ils sont attirés, par quoi ils ne sont pas attirés. Et donc ces études, alors c'est toujours très beau à voir, quand on voit une odeur ou une saveur qui est amenée à un tout petit nourrisson, avec une petite canne en verre, et où on voit cette petite tête soit faire un sourire et essayer de téter la canne en verre qui se présente devant lui, ou l'inverse, où on voit cette grimace qui ne laisse aucun doute. Ces images, elles sont assez fascinantes à voir. Et donc, ces études ont démontré que les enfants, les très jeunes enfants, étaient spontanément attirés par certaines odeurs et certaines saveurs, en l'occurrence les saveurs sucrées, salées, et des odeurs comme la vanille, le caramel. Donc, il suffit juste de présenter une odeur de vanille à un tout petit nourrisson et le réflexe de succion, d'ouverture de la bouche apparaît et on voit que ça se rapproche de l'allaitement et on voit qu'il veut tout de suite aller consommer et se réfugier vers cette odeur. Et par contre, ils vont rejeter de façon innée l'amertume et l'acidité.
Un petit café ?
Jamais de café.
Et citron pressé ?
Plutôt un verre de lait.
On verra ça l'autre jour.
En gros, dès notre naissance, on est programmé pour rejeter les goûts acides et amers. Alors, l'explication, vous allez voir qu'elle est simple, elle est d'une logique imparable. Dans la nature, les aliments toxiques, ils ont souvent des goûts amers et des goûts acides,
Okay.
Et donc, il s'agit juste d'un rejet instinctif pour nous protéger d'aliments qui pourraient s'avérer être des poisons. La caféine, qui est le composé majoritaire du café. C'est une molécule qui a un goût amer et qui est connue pour son amertume. Et donc voilà l'explication du rejet du café, c'est que l'amertume du café est rejetée par les nourrissons.
C'est un réflexe ancestral pour se préserver, en somme.
Exactement. C'est un vieux réflexe inné, très animal.
Mmh. Alors qu'est-ce qui fait qu'une fois adulte, on se rue sur le café? On en consomme, pour certains, plusieurs par jour.
Et oui, et moi le premier. Donc comment on peut devenir addict à quelque chose dont on n'est pas conditionné de l'aimer? Alors, il y a deux grandes réponses, et je pense que là aussi tout le monde va pouvoir les appréhender assez facilement. La première réponse, c'est l'apprentissage et le développement du goût. Là aussi, on sait que entre nos goûts de jeunes enfants et nos goûts d'adultes, au fil du temps, on se met à aimer certains aliments qu'on rejetait étant enfant.
Mais c'est comme finalement. C'est comme le vin.
Alors le vin en est un très bon exemple également, et de certaines boissons, certains aliments un peu avec des typicités très fortes, des fromages un peu forts que les enfants rejettent en faisant la grimace, et puis après que les adultes. On dit généralement qu'il faut entre 5 à 20 expositions gustatives pour qu'un enfant commence à apprécier un aliment qu'il n'aime pas naturellement. Et pour les adultes, par contre, si on découvre et si on fait cet apprentissage gustatif plus tard, ça nécessite encore plus de temps. Donc voilà, première réponse, c'est on apprend à aimer quelque chose qu'on n'aimait pas initialement.
C'est du caramel, c'est de la chicorée. On rajoute toujours de la chicorée dans le café. De la quoi?
De la chicorée. C'est pas bon, chez ça?
Si, c'est très bon.
Et puis pour le café, il y a une seconde réponse qui est l'environnement. Et je pense qu'on peut même utiliser le conditionnement qui nous pousse, là encore, à développer encore plus cet apprentissage. Parce que le café, on y est constamment exposé, c'est un rituel, c'est un geste social. Donc la consommation fréquente en famille, entre amis, les films, les publicités, je dirais presque toute notre société nous pousse à aimer le café, qui est aujourd'hui un objet social, qui permet des rapprochements. On va se boire un café pour continuer une discussion.
Jean-Claude,
pardon.
Premier
oui,
je suis à vous.
Alors, je vous présente l'incontournable Hervé Dumont.
Ouais. Il est à qui ce café?
Il est à...
il est à moi.
Il est à vous.
Oh, pas terrible,
Et donc, forcément, les plus jeunes se forcent un peu dans ce rituel un peu social, et puis à force de se forcer, on commence à apprécier, et puis on devient accro au café. On enlève le sucre et l'amertume nous gênent de moins en moins.
Alors, parlez pour vous. Parce que alors, si moi j'ai réussi à enlever le lait de mon café, le sucre, je peux pas. Je crois que j'ai encore un très bon réflexe reptilien.
C'est ça, oui. Peut-être encore la protection qui est là. Mais c'est vrai que je pense que beaucoup analyseront ça. On commence en mettant beaucoup de sucre, en mettant du lait. Et puis au fur et à mesure de notre apprentissage, de notre évolution dans le temps, on enlève un sucre, deux sucres. Et puis à la fin, on n'en met plus. Et puis à la fin, on recherche tellement même cette amertume que quand on nous propose un café sucré, on fait cette fois la grimace parce que l'amertume est masquée. Donc vous voyez que l'apprentissage permet d'expliquer plein de choses.
Dis donc, le café est servi. Si tu veux le boire chaud, tu ferais bien descendre.
Giant steps, I watch you.
Pôle FM vous propose de retrouver vos programmes préférés en nouvelle diffusion tout au long de la nuit. Rhône FM,
l'astuce du week-end. L'été approche à grands pas et l'herbe aromatique par excellence durant cette période, c'est bien sûr la menthe. Idéale pour agrémenter nos plats ou pour parfumer de délicieuses boissons bien fraîches. La menthe est un ingrédient précieux qui nous servira tout au long de l'été. Mais comme de nombreuses herbes, la menthe a tendance à perdre rapidement de sa fraîcheur. Si vous n'avez pas la main verte, vous la trouverez bien sûr en magasin, mais souvent en grande quantité, rarement utilisée d'un coup. Pour éviter que les feuilles ne s'abîment trop rapidement, Noémie Germain nous donne une astuce très pratique via son compte Instagram Spicy Noémie, consacré à la cuisine. Une technique qui lui permet de conserver de la menthe fraîche jusqu'à 3 semaines, tout en évitant de la faire tremper dans un verre d'eau qui noircit et sent mauvais après 2 jours à peine. Sa technique, c'est d'utiliser un torchon propre qu'elle imbibe légèrement avec de l'eau. Ensuite, elle les sort bien pour éviter le trop-plein. Elle y dépose les tiges de la menthe et les enroule en commençant par le côté racine, puis direction le réfrigérateur, ce qui permettra de conserver la couleur, la texture, mais surtout la saveur de la menthe. On vous invite à tester par vous-même. Et pour retrouver cette astuce, rendez-vous sur le compte Instagram Spicy Noémie en un mot.
Je sais ce que tu vas dire, que c'est pas à cause de moi, mais t'es prête à partir et tout est rangé déjà. Y'a plus que des affaires à moi. Je vais pas te retenir, j'ai déjà fait trop de fois, et comme dernier souvenir, je ne veux pas de celui-là, celui où tu t'en vas. J'aimerais garder le meilleur de ce qu'on était, et je sais qu'ailleurs t'iras chercher un peu de ce que je ne t'ai pas donné. Je vais garder le meilleur de ce qu'on était, et c'est pas grave si tu vas chercher un peu de ce que je ne t'ai pas. S'il fallait recommencer, je crois que je ne changerai rien. De nous j'ai tout aimé, même quand ça se passait pas bien. T'avais de l'or dans les mains. J'aimerais garder le meilleur de ce qu'on était, et je sais qu'ailleurs t'iras chercher un peu de ce que je ne t'ai pas. Garder le meilleur de ce qu'on était, et c'est pas grave si tu vas chercher un peu de ce que je ne t'ai pas donné. On se regarde peut-être pour la dernière fois, et sans se parler, c'est comme un dernier au revoir. J'aimerais garder le meilleur de ce qu'on était, et je sais qu'ailleurs t'iras chercher un peu de ce que je ne t'ai pas donné. Je vais garder le meilleur de ce qu'on était, et c'est pas grave si tu vas chercher un peu de ce que je ne t'ai pas.
Les plus belles soirées, les plus belles nuits,
c'est sur Rhône FM,
avec les meilleurs moments de la journée. Rhône FM.
Tam Tam.
Tam Tam, l'univers créatif du marketing, et aujourd'hui place à la célèbre marque Bulgari. Bulgari qui est une marque italienne de joaillerie et horlogerie de luxe fondée en 1884 à Rome. Alors, connue pour ses créations audacieuses qui mêlent pierres précieuses et métaux précieux, Bulgari s'inspire des motifs architecturaux et de l'artisanat romain. La marque, il faut le savoir tout de même, hein, on va le mettre en lumière, met l'accent sur l'utilisation responsable des ressources naturelles et la préservation de l'environnement. C'est une vision pionnière ancrée dans son ADN depuis sa création. Donc Bulgari ne fait pas du greenwashing, vous voyez. Bulgari est aujourd'hui une marque emblématique du groupe LVMH, qui est leader mondial du luxe. Et du coup, les spécialistes du luxe, justement, sont toujours à l'affût de nouveautés pour se démarquer et n'hésitent pas à repousser les limites de l'excentricité. C'est justement le cas de Bulgari, qui établit un nouveau record du monde en dévoilant la montre la plus fine jamais créée, qui détrône ainsi la RMUP01 Ferrari de Richard Mille. Alors, présentée lors du salon Watches and Wonders à Genève, l'Octo Finissimo Ultra COSC, c'est comme ça que se nomme cette jolie montre de Bulgari, affiche une épaisseur étonnante de seulement 1,70 mm, soit l'équivalent, on va dire, d'environ deux cartes de crédit empilées, vous voyez. Conçue par les ingénieurs de la Concept Watch Factory chez nous en Suisse, cette montre ultra fine compte plus de 170 composants. Puis attention, elle est belle, hein. C'est vraiment de qualité. Et bien que d'une finesse extrême, l'Octo Finissimo Ultra COSC promet une résistance au choc, une protection contre les champs magnétiques et un chronométrage fiable et précis. Prouesse technique qui allie à la perfection design avant-gardiste et performance horlogère. Elle est produite, attention, ce bijou en seulement 20 exemplaires, avec deux finitions au choix, titane, sablé ou platine. Cette montre d'exception affiche un prix à la hauteur de sa rareté et de son savoir-faire, parce qu'il faut le dire tout de suite, ça coûte bonbon, et je ne vais pas vous dire le prix, mais autant vous le dire tout de suite, ça coûte bonbon. Et selon ses concepteurs, c'est un investissement de choix pour les amateurs de haute horlogerie à la recherche d'une pièce unique. Donc pour voir ce bijou, cette montre la plus fine du monde, allez donc faire un tour sur leur site web bulgari.com.
takes two. It's up to me and you to prove it.
Salut, c'est Julien Doré sur Rhône FM.
Rhône FM.
Just wanna let this story die.
cling to your papers and pens. Wait until you like me again. Wait for your love.
Sur Rhône FM, on a gardé le meilleur de la journée.
Rhône FM,
aux origines de...
Du kulfi ce matin. Le kulfi, un dessert glacé emblématique de la cuisine indienne. Le kulfi, également connu sous le nom de kulfi, est une délicieuse crème glacée traditionnelle originaire d'Inde. Cette gourmandise rafraîchissante, appréciée pour sa texture onctueuse et ses saveurs exquises, a su traverser les frontières pour se faire une place de choix dans les desserts du monde entier. Bien que son origine exacte reste nimbée de mystère, certaines théories suggèrent que le kulfi remonterait à l'époque moghole, lorsque les empereurs faisaient congeler des mélanges de lait, de fruits et d'épices dans de la neige apportée des montagnes himalayennes. D'autres sources évoquent une possible influence persane où des desserts glacés similaires étaient déjà appréciés à l'époque. La